L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, avec la RTBF, avec Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, nous verrons que le chocolat, le cacao de Côte d'Ivoire a décidément un côté sombre dans tous les sens du terme. Nous irons en Belgique quand des images clandestines et choquantes entraînent la fermeture d'un abattoir. En Suisse, bientôt les élections au Conseil fédéral, 3 candidats en lice et derniers échos de campagne dans un instant. On parlera également de Paris en tant que ville organisatrice des Jeux Olympiques de 2024. Et puis on ira au Canada pour voir comment les autorités multiplient les symboles de reconnaissance des populations autochtones. C'est l'actualité francophone, bienvenue à tous. Charlotte Hydrac pour RFI, on commence avec deux artistes africains à l'honneur.
Le musicien sénégalais Youssou N'Dour et le sculpteur ghanéen El Anatsui, ils font partie des lauréats du prix Premium Impérial, considéré comme le Nobel des arts. Youssou N'Dour, auteur, compositeur, interprète, un temps ministre aussi, roi du mbalar, le rythme sénégalais et de la world music. Il a collaboré avec les plus grands noms de la pop, Peter Gabriel ou Sting. Quant à El Anatsui, il est réputé pour ses sculptures gigantesques créées avec des objets métalliques, il est aujourd'hui l'artiste le plus cher d'Afrique.
En Belgique, Anina Meus, l'impensable s'est produit cette semaine dans la ville de Moucron. Le bourgmestre, apprécié de tous, a été assassiné.
Oui, tous les matins, tous les soirs, Alfred Gaden ouvrait et fermait les portes du petit cimetière en face de chez lui. C'est là qu'il a été égorgé. Son père et son grand-père avaient été bourgmestres avant lui. Il le deviendra presque à son insu. Malgré son immense popularité, il laissera longtemps un autre occuper le devant de la scène. Alfred Gaden, c'est un peu le municipaliste dont tout le monde rêve, efficace, gentil et disponible. Il a été tué par un jeune homme qui n'a pas supporté le suicide de son père qui avait été remercié par la ville peu avant de se donner la mort.
Au Canada, Benoît Audet, un député candidat à la direction du nouveau Parti démocratique, a été pris publiquement pour un islamiste.
Oui, Jagmeet Singh, qui s'est retrouvé face à une personne hostile au cours d'un rassemblement. La dame l'a accusé d'être un membre des Frères musulmans et de vouloir imposer la charia au Canada. Jagmeet Singh n'est pas musulman, il est bien de religion sikh, mais il est demeuré calme et en a profité pour lancer un appel à la tolérance. La vidéo de l'incident est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.
En France, les personnalités de la semaine sont deux couples présidentiels qui ont fait connaissance cet été, mais qui se sont revus à domicile cette semaine. Les Macron ont rendu visite au Chirac. L'ancien président a offert à l'actuel un cadeau très personnel, un portrait en bronze du général de Gaulle, objet qui l'a accompagné dans toutes ses fonctions, aussi bien à la mairie de Paris qu'à l'Élysée. Le président Chirac a ainsi voulu marquer la continuité de la République par-delà les familles politiques. Et en guise de remerciement, Emmanuel Macron a promis d'installer ce bronze dans son bureau de l'Élysée. Pas un mot, en revanche, n'est ressorti sur la santé déclinante de Jacques Chirac. Et cette question maintenant en Suisse, Ron Oschuli, si tous les seniors rendaient leur permis de conduire, pourquoi ne recevraient-ils pas une compensation? Eh bien, c'est le projet d'un parlementaire fédéral démocrate chrétien.
Il s'appelle Fabio Regatti et il tient à la sécurité routière. Comme le Parlement a décidé cette semaine de reporter à 75 ans le premier contrôle médical pour déterminer l'aptitude du senior à conduire, Fabio Regatti entend redresser le volant, mais en douceur. Il veut inciter les plus de 70 ans à renoncer à leur permis de conduire pour réduire les risques. Comment ? Avec un cadeau aux aînés, un abonnement général gratuit pour tous les transports publics du pays. Une idée, vous l'imaginez, plutôt coûteuse pour l'État et un combat qui s'annonce donc difficile pour Fabio Regatti.
En Belgique, Anina Meus, des images clandestines et choquantes ont donc entraîné la fermeture d'un abattoir.
Oui, la direction de l'abattoir d'Izeghem se dit choquée. Elle promet un plan d'action, mais pouvait-elle vraiment ignorer ce qui se passait derrière ces murs? Les images tournées par un groupe de défense des animaux sont en tout cas très impressionnantes. Elles montrent des animaux soumis gratuitement à des chocs électriques, des animaux pris de panique qui se débattent, ou encore des animaux qu'on abat alors qu'ils sont mal étourdis. Après inspection, le ministre flamand compétent a fait fermer l'abattoir. Deux grandes chaînes de distribution ont aussi immédiatement arrêté ou suspendu leur collaboration avec l'abattoir en question.
Et on cherche donc de plus en plus à contrôler ce qui se passe derrière les murs des abattoirs.
Oui, plus de transparence, c'est la tendance. Plusieurs abattoirs ont déjà installé d'initiative leurs propres caméras de surveillance. Ce contrôle interne des conditions d'abattage est en principe dissuasif, mais se contente surtout de mettre en place, c'est un système de contrôle externe avec des caméras qui permettraient ainsi à des vétérinaires mandatés, par exemple, de voir ce qui se passe jusqu'ici à l'abri des regards. On attend plus que le feu vert de la commission de la protection de la vie privée pour ce faire. Avec ce feu vert, les images pourraient aussi servir de preuve en cas d'infraction, car les images tournées clandestinement et qu'on a vues cette semaine ne constituent pas un élément de preuve devant la justice.
Charlotte Hydrac pour RFI, le sujet de la semaine, c'est cette enquête sur le côté obscur du cacao de Côte d'Ivoire.
Oui, si vous êtes amateur comme moi de chocolat croqué dans un carré de Lindt, un Ferrero ou une barre de Mars peut avoir des conséquences sur l'environnement en Côte d'Ivoire. Le pays est le premier producteur mondial de cacao et selon l'ONG Mighty Earth, les grandes firmes du secteur exploitent illégalement des zones de forêt et de parcs protégés à grande échelle. Et Taligonnet a enquêté sur le terrain.
J'ai commencé avec des visites dans les parcs. Je suis partie sur la chaîne de complicité, sur la prochaine étape, c'est les pisteurs qui amènent le cacao des fermes vers les coopératives. J'ai continué à remonter la chaîne jusqu'à ce que j'arrive aux traders Cargill, Olam et Barikaibo qui sont en train d'acheter du cacao illégal de déforestation. Ces trois-là vendent à toutes les grandes compagnies de chocolat du monde.
Et du coup, les zones soi-disant protégées sont parfois devenues de véritables villes. Le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Alain-Richard Donwahi, est conscient du problème.
J'explique cela d'abord par les années de crise que nous avons vécues. Vous savez, entre 2002 et 2010, nous sommes aperçus qu'effectivement les forêts avaient été complètement cannibalisées. Nous sommes en train de définir une nouvelle stratégie de protection de nos forêts. Nous devons mettre l'accent sur la culture intensive et non extensive.
En attendant, la forêt ivoirienne disparaît à petit feu selon les chiffres officiels. Elle couvrait 78% du territoire en 1960, moins de 13% aujourd'hui.
En Suisse, Ron Schüli, l'élection d'un nouveau conseiller fédéral. Trois candidats du même parti de droite sont en lice. Ils ont donc encore quelques jours pour convaincre.
Oui, la mode des primaires gagne aussi la Suisse. Le Parti libéral radical a organisé une vaste campagne avec des débats internes à travers le pays où chaque candidat essaye de se distinguer sans pour autant attaquer ses adversaires. Et pourtant, c'est là tout le paradoxe. Au bout du compte, l'élection ne se fait pas au suffrage universel, non. C'est bien le Parlement qui élit les ministres.
Alors pourquoi toute cette agitation ?
D'une part, ça permet au parti d'exposer ses ténors, et puis en séduisant l'opinion publique, ce sont les parlementaires que les candidats espèrent convaincre. Enfin, ça leur fait un bon tour de chauffe avant les choses sérieuses qui ont démarré cette semaine. Derrière des portes closes, les différents partis auditionnent les candidats individuellement, un peu façon entretien d'embauche.
Et parmi les trois candidats, y en a-t-il un qui se détache ?
En Suisse romande, face à la vaudoise Isabelle Moret, c'est sans doute le genevois Pierre Maudet qui réalise la meilleure campagne. À 39 ans, cette véritable bête politique affiche déjà un bilan solide dans son canton, mais il souffre du lourd handicap de ne pas être membre du Parlement fédéral. Au contraire d'Ignacio Cassis, connu et apprécié de ses collègues grands électeurs. Cassis a surtout le gros avantage de venir du Tessin, la partie italophone du pays. Or, cette région ne compte plus de représentants au gouvernement fédéral depuis près de 20 ans et les parlementaires pourraient bien réparer mercredi prochain ce que beaucoup considèrent comme une injustice.
Au Canada maintenant, c'était cette semaine le 10e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La ville de Montréal en a profité pour multiplier les symboles de reconnaissance des peuples autochtones et Benoît Audet, cette reconnaissance va même modifier le drapeau de la métropole québécoise.
Oui, le maire Denis Coderre a présenté un ajout au drapeau de la ville. Il y a présentement un symbole pour chacun des peuples fondateurs de Montréal, les Français, les Anglais, les Écossais et les Irlandais. On y verra maintenant un symbole, un arbre, un pin blanc qui se retrouvera en plein centre pour rappeler que les Autochtones étaient à Montréal bien avant l'arrivée des Européens.
Le maire a aussi annoncé un changement important au nom d'une rue de Montréal.
Oui, la rue Amherst, qui honore la mémoire d'un général anglais reconnu entre autres pour sa haine envers les Autochtones. Voici à ce sujet le maire Denis Coderre.
Si on veut se donner une histoire, si on veut s'assurer de respecter et parler de réconciliation et donc de reconnaître, je ne pense pas qu'on veut célébrer quelqu'un qui voulait exterminer les Autochtones. Donc oui, gouverner, c'est choisir, et nous allons le faire.
La rue Amherst sera donc rebaptisée, soit pour honorer un chef autochtone, ou encore pour marquer la réconciliation avec les peuples autochtones.
Benoît, on l'a vu aux États-Unis également, hein, quand il s'agit de déboulonner les statues, on touche parfois des cordes sensibles. Est-ce que la décision de la ville de Montréal a été accueillie favorablement ou pas chez vous d'ailleurs?
Les avis sont partagés. Certains se réjouissent de la disparition du nom de Amherst, alors que d'autres croient qu'on ne peut effacer l'histoire et qu'on devrait plutôt mettre ce nom en contexte et enseigner qui était vraiment Amherst.
Paris a été désignée cette semaine ville organisatrice des Jeux Olympiques 2024. La compétition devrait se dérouler du 2 au 18 août 2024, donc. Et ce qui a fait mouche, semble-t-il, dans le dossier parisien, c'est le coût relativement faible de ces futurs JO, sous la barre des 7 milliards, bien moins donc que les 11 milliards de JO de Londres en 2012. Il faut dire qu'à Paris, 95% des sites existent déjà. Il ne reste que 3 sites à construire. Le village olympique, le village des médias et aussi le centre aquatique. Anne Hidalgo, la maire de Paris, n'a pas toujours soutenu ce projet olympique. À l'époque, il a même fallu que François Hollande lui force la main, mais finalement, au moment de l'annonce officielle cette semaine, la maire de Paris n'était pas peu fière.
Je suis sur un petit nuage, là, pour tout vous dire. Et non, c'est vraiment un moment intense parce que toute cette énergie, tout ce travail, toute cette construction d'une victoire, d'une stratégie. On arrive avec cette victoire et tout ça, ça va être extraordinaire pour les Français et les Parisiens. Donc je suis encore très très émue là. Cette victoire, elle est magnifique. Elle est collective, mais elle est magnifique pour le pays.
Magnifique pour le pays, eh bien ce n'est pas le point de vue unanime. Les opposants au JO 2024 à Paris dénoncent un projet polluant et toujours trop cher au regard de ce que devraient être les priorités budgétaires. Voilà pour le tour d'horizon de la semaine francophone. Merci à tous les quatre. Le prochain rendez-vous francophone, ce sera dans une semaine au même endroit et à la même heure.